Le journal Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour. L'année se termine en grève. Le dernier jour de 2019 est le 27e de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, les agents de la RATP ne font pas tous grève, mais ne sont pas forcément favorables au projet du gouvernement pour autant. C'est l'info de la nuit, la fuite de Carlos Ghosn au Liban. L'ancien patron de Renault-Nissan fuit le système japonais qu'il juge partial. Dans ce journal également, nous irons en Russie, où cela fait jour pour jour 20 ans que Boris Yeltsin a passé la main à Vladimir Poutine. Le terrible compteur des féminicides également et des mesures à partir de demain pour tenter de lutter contre ce fléau. Et puis l'un des événements sportifs de l'année, le retour du golfeur Tiger Woods au meilleur niveau mondial.
Au micro d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher.
France Inter.
C'est un conflit qui dure et qui dure encore.
27e jour de grève contre la réforme des retraites, quasi un mois de perturbations dans les transports en commun à la SNCF, mais aussi en Île-de-France. Pourtant, si les transports parisiens sont durement touchés, une partie des métros, des trams et des bus circulent. Alors, qui sont ceux qui ne font pas grève? Au sein des chauffeurs de bus notamment, beaucoup sont en fait d'anciens grévistes, Rémi Brancato.
Au terminus de plusieurs lignes de bus, Porte de Saint-Cloud, c'est la pause café pour ce chauffeur qui préfère rester anonyme.
J'ai fait 6 jours de grève. Je viens de travailler, mais à contre-cœur.
Comme beaucoup, il a repris le volant pour ménager son porte-monnaie.
Je peux pas me permettre de me mettre en grève tout le mois. J'ai un crédit sur le dos. Je suis payé aux alentours de 1800 euros. Entre 80 et 100 euros la journée, le calcul est vite fait, quoi. Ça fait très, très, très mal.
Juste à côté, après 10 jours de grève, Kaba, conducteur dans les Hauts-de-Seine, à nouveau au travail, regrette que les caisses de grève soient trop peu remplies.
Les fonds qui sont collectés par rapport au nombre d'agents, chacun aura peut-être 20 balles. 20 euros, c'est pas suffisant.
Bonjour. Alors en ce moment, les journées sont un peu particulières avec parfois des blocages le matin au dépôt des bus. Ce conducteur dit même avoir subi des pressions de certains grévistes.
C'est des menaces en sous-entendu. C'est jamais la personne elle-même qui vous fait les menaces, mais on va te mettre en garde en disant fais attention, il peut se passer ci, il peut se passer ça, quoi.
Et même s'il n'a jamais fait grève, il se dit opposé à la réforme.
Ce bus va au Trocadéro. Hein.
Tout comme Eric, 55 ans, qui fait une pause dans la grève avant de reprendre.
Le gouvernement joue là-dessus en disant on va laisser un peu pourrir, on va laisser passer le temps. Après les crues, il y a les décrues, mais ça peut regrimper, donc il faut faire attention.
Car beaucoup ici attendent lundi et la rentrée scolaire pour se remettre en grève.
Rémi Brancato. D'ici là, côté prévision, il faut compter sur la moitié des TGV et des TER aujourd'hui. Un intercité sur 5 et un quart des Transiliens. Et à Paris, pour cette soirée de réveillon, les trains de banlieue circuleront toute la nuit. Au départ des gares de l'Est, du Nord et Saint-Lazare, les lignes de tram 2, 3A et 3B circuleront toute la nuit et jusqu'à 2h15 du matin pour les lignes automatiques du métro, les 1 et 14. Tout est gratuit dès 17h et jusqu'à demain midi. C'est la tradition. Autre tradition du 31 décembre, les vœux présidentiels. Pour la troisième année consécutive, Emmanuel Macron adressera les siens ce soir à 20h en direct à la télé et à la radio sur France Inter. Dans ce contexte délicat, le chef de l'État, quasi muet depuis 10 jours, s'exprimera sans aucun doute sur les retraites pour un message d'apaisement. Enfin, côté sécurité, 100 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés ce soir dans tout le pays.
C'est l'info de la nuit, la fuite de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, est au Liban.
Colpo di scena nell'affaire Carlos Ghosn.
Carlos Ghosn has fled Japan, and we know that because he tells us so himself. In fact, he released a statement.
Annonce qui fait la une des grands médias internationaux. Vous avez entendu la chaîne japonaise NHK, la RAI en Italie et CNN aux États-Unis. L'ex-super patron de l'alliance Renault-Nissan est à Beyrouth avec sa femme depuis dimanche soir. Il confirme ce matin avoir fui le Japon où il était assigné à résidence en attendant son procès pour malversation financière. Il dit refuser d'être l'otage d'un système judiciaire partial. On en reparle plus longuement dans le journal de 8h en direct de Beyrouth et de Tokyo. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Boris Yeltsin annonçait son départ du Kremlin. Le président de la Fédération de Russie prenait ainsi tout le monde de court et plaçait surtout à sa place Vladimir Poutine, un homme qui depuis n'a pas quitté le pouvoir. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Vladimir Poutine doit son ascension politique au réseau qu'il a tissé en patientant dans l'antichambre du pouvoir, au sein de l'administration présidentielle ou à la tête du FSB. Pour Andrei Kolesnikov, politologue au Carnegie Center de Moscou, sa personnalité suscitait alors l'unanimité dans les cercles de pouvoir.
Tous ont vu en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Les libéraux ont vu un libéral qui allait poursuivre une bonne politique économique. Les services spéciaux ont vu un des leurs. L'armée, un homme qui était prêt à se battre pour la Tchétchénie. Et les masses, un homme qui avait une poigne de fer.
En organisant la verticale du pouvoir, il a mis au pas la classe politique et les oligarques afin de restaurer la puissance d'un État déficient, grandement aidé par les réformes impopulaires de l'économie mises en place par son prédécesseur et une forte augmentation du prix du pétrole. Comment dès lors s'est-il maintenu au pouvoir pendant 20 ans ? Andrei Kolesnikov.
Deux facteurs. Son habileté à construire des clans et démontrer qu'il n'y avait pas d'alternative lui ont permis de rester au pouvoir aussi longtemps.
Qu'adviendra-t-il dès lors en 2024 lorsque s'achèvera son dernier mandat ? Personne ne connaît la réponse pour l'instant. Moscou. Jean-Didier Revoin, France Inter.
En bref, à l'étranger, des milliers de vacanciers obligés de se réfugier sur des plages au sud-est de l'Australie. Quelques 4000 personnes prises au piège pour échapper aux incendies qui ravagent cette région très touristique.
7h36, la suite du journal avec ce compteur qui n'a cessé de grimper cette année, celui des féminicides.
Et en un an, 148 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. Triste record, c'est 26 de plus que l'an dernier. Pour y faire face, le gouvernement a tenu à l'automne un Grenelle des violences conjugales. Et un certain nombre de dispositifs doivent être mis en place dès demain, 1er janvier, Sophie Parmentier.
L'un des dispositifs novateurs qui sera expérimenté en 2020 est le bracelet anti-rapprochement, bracelet électronique qui a largement fait ses preuves en Espagne, où le nombre de féminicides a fortement diminué. Ces bracelets permettent de géolocaliser des conjoints ou ex-conjoints violents et de les éloigner de leurs victimes. À partir de demain et progressivement, 1000 bracelets seront à disposition de la justice française. Ce sera un outil précieux, disent magistrats et associations de victimes, comme l'est depuis 10 ans, le téléphone grave danger. Mais pour que ces outils soient efficaces, il ne faut pas les laisser dormir dans les placards des tribunaux, rappelait le mois dernier le procureur général François Molins lors d'un colloque qu'il a organisé à la Cour de cassation sur les violences conjugales. Il prônait aussi plus de rapidité dans les enquêtes.
La culture de la priorité du traitement de ce genre d'enquête, il suffit de mettre les choses sur le haut des piles et de faire des choix, et puis après aller vers une vraie culture de la protection de la victime. Parce qu'à l'égard de ces femmes victimes, le risque de réitération et leur état de vulnérabilité est tel qu'on ne peut pas se permettre de laisser prospérer des temps morts dans les procédures.
Pour protéger les plus petites victimes, les enfants, au cœur des violences conjugales, des députés veulent faire voter la suspension de l'autorité parentale pour un conjoint violent.
2019, l'année où s'est donc imposé le mot féminicide dans notre vocabulaire et dans la société, c'est-à-dire sur le site d'Inter, franceinter.fr. En football, avec la fin d'année, voilà l'ouverture du mercato d'hiver. Les équipes changent, ajustent et remanient pour la deuxième partie de saison. Lui a connu une véritable résurrection cette année, le golfeur Tiger Woods. C'est l'un des événements sportifs qui aura marqué 2019. Tiger Woods redevenu donc l'un des meilleurs joueurs alors qu'il était dans les méandre du classement mondial il y a 2 ans, un retour historique après avoir connu une descente aux enfers marquée notamment par ses relations extra-conjugales. Antoine Martin.
Inimaginable il y a encore quelques mois de voir Tiger Woods remporter le prestigieux Masters d'Augusta. L'enfant chéri d'Amérique avait plongé dans les tréfonds après 2009. Conflits extra-conjugaux, arrêté sous l'emprise d'alcool et de médicaments, blâmé, lâché par ses sponsors, meurtri physiquement, la légende était à l'agonie.
Je ne pouvais plus marcher, ni m'asseoir, ni même me coucher. Je ne pouvais quasiment rien faire. Puis, il y a eu cette opération du dos qui m'a donné une seconde chance afin de vivre normalement.
Le tigre s'accroche. Cette opération le remet sur pied. En 2018, il empoche le dernier tournoi de la saison, le Tour Championship, 13e mondial. Les États-Unis le rappellent en Ryder Cup pour affronter les Européens. Puis le 14 avril dernier, coup d'éclat magistral, Woods remporte pour la première fois un grand chelem en n'étant pas leader au début du dernier tour.
C'est la plus belle et la plus difficile victoire de ma carrière. Être champion 22 ans après ma première victoire ici, ça commençait à faire long. C'est irréel, je ne peux pas l'expliquer. Ma mère est là, elle était là en 1997. Je ne peux pas être plus heureux et excité.
À 43 ans, l'ancien numéro 1 mondial continue d'écrire sa légende. Avec ses 15 titres du Grand Chelem, Tiger Woods est à 3 longueurs du record suprême détenu par Jack Nicklaus.
Allez, pour finir, on part plus proche de nous, en Picardie, pour le réveillon, Xavier.
Et dans le village de Jumelles, 500 âmes, comme chaque année depuis près de 20 ans, le comité des fêtes prépare sa soirée du 31, un moment convivial qui rassemble une bonne partie des habitants du village et qui demande plusieurs mois de préparation, évidemment, Marie Roussel.
Là, je suis en train de préparer la pâte pour les cakes.
Lui, c'est Didier, le cuisinier attitré de la Saint-Sylvestre depuis une quinzaine d'années. Et cette fois encore, le bénévole s'est surpassé pour la préparation du menu, avec entre autres en entrée...
crème de lentilles avec du magret de canard et des cerneaux de noix.
Et en plat de résistance...
cuisse de canard avec du gratin de bête, patates douces rôties.
Sans oublier le trou normand, les tartines de chèvre chaud ou encore le millefeuille aux fruits rouges en dessert. Le tout pour 160 personnes tout de même.
C'est du boulot.
Hubert Van Guetem est le maire de Jumelles.
On démarre à peu près 4 mois à l'avance. Encore la semaine dernière, Didier, il est allé faire les courses à l'Intermarché. On est une quinzaine de personnes à graviter autour de cette organisation.
Il faut savoir qu'à la base, cette soirée du réveillon était une soirée de famille, celle des surhommes. Francine en fait partie.
Comme on a une grande famille, on est 9 enfants. Il y avait la moitié de la salle qui était remplie par la famille. Puis après, tous les amis sont arrivés.
Et pour elle, la Saint-Sylvestre a ses bons côtés.
C'est sympa, on danse bien, on s'amuse bien. Ouais.
Et puis c'est mauvais.
De la minute à minuit, là, où tout le monde se souhaite la bonne année, c'est vraiment la corvée la pire.
Valentin, 9 ans, lui, retient surtout le principal.
Chaque fois, on mange bien et il y a de l'ambiance.
Et comme Valentin, les organisateurs espèrent que les jeunes prendront le relais. D'ailleurs, pas plus tard que l'année prochaine, ils auront besoin d'un nouveau cuisinier, puisque Didier a décidé de rendre son tablier.
Marie Roussel, France Bleu Picardie, restons le nez dans les assiettes pour finir peut-être un peu plus prestigieuse. C'est aujourd'hui que le tribunal de Nanterre doit trancher sur la 3e étoile de Marc Vera. Le chef savoyard a perdu l'an dernier sa 3e étoile au guide Michelin, guide qu'il a attaqué en justice depuis. Pourtant, le chiffre d'affaires de son restaurant n'est pas en berne, semble-t-il. Pas forcément besoin d'avoir des étoiles dans sa vie.
Il suffit de l'avoir dans les yeux ou sur les papilles. Merci Xavier de Manipulé.